Vous écoutez Dutrisac, Cube Radio.
Luc Tassé est avec nous pour parler de politique étrangère. On reçoit le ministre des Transports vers 12h30. Donc, on a comme changé de place avec M. Tassé. Loïc, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, la guerre se poursuit en Israël et en Palestine.
Ben oui, on a parlé de ça toute la semaine dernière, on s'est quitté là-dessus vendredi. Évidemment, on retourne lundi avec ça, parce que ça s'est intensifié. Hier, simplement, les Israéliens ont détruit 850 cibles à Gaza. Ça a fait 200 morts, dont 130 soldats du Hamas. Et en contrepartie, les Palestiniens de Gaza ont tiré 3200 roquettes sur Israël, mais il y en a très peu qui ont touché leur cible. Comme tu sais, il y a à peu près 10% des roquettes qui touchent leur cible, et elles sont de bien moindre puissance que les bombes israéliennes. Donc, au total, on est rendu du côté de Gaza 2500 personnes qui ont perdu leur maison. Et attends un peu, il y a 45 000 personnes qui sont déplacées à Gaza. Et le problème, c'est que les Israéliens sont en train de perdre la guerre au niveau médiatique. Parce que tout le monde se rend compte qu'il y a une disproportion énorme entre les frappes des Palestiniens et celles des Israéliens. Puis la question n'est pas de savoir s'ils ont le droit de se défendre ou non. C'est pas ça. Mais les frappes sont disproportionnées. Et ça fait mal paraître le gouvernement Netanyahou. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ressort de vieux procédés de propagande. Et on commence à dire quoi? Que les frappes sont des frappes chirurgicales. T'as pas déjà entendu ça, toi, en Irak, etc., hein? Comme si les frappes pouvaient être chirurgicales. Et que seuls les immeubles visés sont détruits, sans tomber sur les immeubles voisins, comme si ça excusait les frappes, comme si c'était merveilleux.
Non, mais attends, là, c'est pas, tu sais, en même temps, là, les deux sont en guerre, là. C'est deux crinqués, là, qui veulent anéantir l'autre. Il y en a un qui est équipé avec des roquettes achetées chez Dollarama. Ben, puis là, Israël, eux autres disent, écoutez, nous autres, on va répliquer, on est tanné de recevoir ça sur la tête, puis on va vous geler ben raide.
Oui, mais attends, ils le reçoivent sur la tête parce qu'il y a une décision de la Cour, très politique de la Cour d'Israël, qui déplace des gens, symboliquement, de quatre familles, à l'intérieur même de Jérusalem-Est, qu'il y a eu des manifestations, que les manifestations ont dégénéré parce que les policiers ont tiré, que les policiers israéliens ensuite ont tiré des grenades lacrymogènes à l'intérieur même de la mosquée à Jérusalem. Tu sais, il y a eu une escalade de part et d'autre avant ça, avant qu'on en arrive là. On en est là, mais comme je t'expliquais, Israël a des objectifs et il les répète année. C'est toujours le même cycle. On décapite les leaders de Palestiniens, on détruit leurs infrastructures, puis on les empêche de se reconstruire économiquement et on en profite pour envahir un peu plus la Cisjordanie, pour digérer, devrais-je dire, un peu plus la Cisjordanie, puis envoyer davantage de colons. Excuse-là, mais on a joué dans ce film-là tellement de fois qu'on le connaît tous par cœur.
Regarde, tu me verras pas prendre un côté plus que l'autre, là. Tu sais, c'est la guerre, puis c'est le peuple qui en souffre.
C'est terrible.
Mais t'as les crinqués qui mettent de l'huile sur le feu.
Absolument.
C'est toujours pareil.
C'est ce que je disais hier dans ma chronique. Le problème, c'est que t'as des extrémistes de chaque côté, puis il y en a de plus en plus. Puis ces gens-là ne veulent pas entendre parler de deux États, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Alors évidemment, ça pose des problèmes. Puis les Palestiniens aussi font leur propagande en ce moment. Ce qui sort du côté palestinien, c'est de dire « Ah, mais c'est pire qu'en 2014. » La preuve, c'est que les hôpitaux sont en train de fermer, les dispensaires médicaux sont en train de fermer, c'est rendu dangereux pour les médecins, bien sûr.
Moi, en plus de déambuler dans les rues en tenant à bout de bras là, des cadavres et des gens qui sont morts, je trouve ça odieux. Je trouve ça odieux.
C'est
des deux côtés. Il est temps que ça se règle pour le bien.
Oui, mais ils veulent pas régler. Ouais, il y a des pressions internationales de partout. On leur dit arrêtez, cessez. Non, ils continuent.
Ça donne ça. Vladimir Poutine, pendant ce temps, lui s'assure d'être
Vladimir
dictateur.
Vladimir Poutine est extraordinaire.
Ben
c'est
oui.
Un dictateur, là. Alors, figure-toi que, selon... Moi, je pense que il applique le vieux principe qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Parce qu'il y a un petit problème, Poutine. Son niveau d'intention de vote est très élevé, à 55%. D'accord. Mais c'est moins bon qu'il y a quelques années. Il était à 70%. Ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Puis il veut rester encore au moins 12 ans. Puis là, il dit, la population m'aime de moins en moins. Ça va un peu mal. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il a décidé de rendre illégal le parti, le mouvement de Navalny, qui s'appelle le mouvement contre la corruption.
OK, ben oui.
Oui. Alors, il a décidé de le rendre illégal et il a décidé de mettre sur une liste noire toutes les personnes qui participaient activement dans le mouvement, sur à peu près 200 000 personnes, qui ne pourront pas se présenter aux élections. Alors, les élections ont lieu le 19 novembre, mais donc, tu as 200 000 personnes qui pourront pas se présenter, pas participer. Elles sont sur une liste noire parce que ils trouvent, Poutine, que ce sont des gens extrémistes et même, voire, terroristes.
Ben oui.
Le fonds de lutte contre la corruption, c'est extrémiste et c'est terroriste. Écoute, qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quand est-ce qu'on empêche Poutine et ses amis de s'enrichir en Russie? Et
Voyons donc. Moi, je pense que Poutine devrait écrire un livre. Comment garder le pouvoir? Ça, c'est... Je veux dire, on est dans le concret puis on est dans le pratique.
Ah, ce sera un livre. Écoute, ne lui donne pas l'idée parce que je pense que ça se vendrait en plus, puis tu serais surpris de voir qu'il l'achèterait. Et puis, tiens, une autre des raisons pour lesquelles il est en train de rendre, pas seulement en fait le mouvement de Navalny, tous les autres partis politiques illégaux, c'est qu'il s'est rendu compte que son parti, qui s'appelle la Russie Unie, fait très mal dans les sondages. À Moscou, par exemple, il recueillerait que 15% du vote. Alors, ça pose un problème, donc, à M. Poutine, parce que lui, il est très populaire, mais son parti est pas très populaire. Ça donne quoi de gouverner comme dictateur si t'as pas l'Assemblée qui est nationale, qui est à ta botte, tu comprends? Ça pose un problème. Donc, sa solution, encore une fois, elle est toute simple. Il met tout le monde sur une liste noire. Ce sont des gens qui sont des terroristes. Et voilà, ils ont pas le droit de se présenter.
Bon, j'ai compris. C'est même que ça marche.
Je peux t'annoncer que aux élections du 19 novembre septembre prochain, Poutine va gagner, le parti de Poutine va remporter des élections.
Ben oui, c'est ça. Il rend illégal ses adversaires.
Ben oui.
C'est extraordinaire. Le Maroc maintenant contre l'Espagne.
C'est un peu plus compliqué, mais c'est très intéressant. C'est le Maroc qui utilise l'immigration illégale comme arme diplomatique contre l'Espagne. Je t'explique. C'est qu'il y a au sud du Maroc un territoire qui s'appelle le Sahara occidental, qui depuis 1976 veut devenir indépendant. Donald Trump a reconnu, il y a quelques mois, que ce territoire faisait partie du Maroc, mais pas l'Espagne. L'Espagne aimerait que non, il y ait une négociation. Alors, le gouvernement espagnol, récemment, a accepté de faire soigner dans un hôpital espagnol un haut dirigeant du Front Polisario, qui donc gouverne le Sahara occidental, et le gouvernement du Maroc n'a pas aimé ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le gouvernement du Maroc? Il a laissé librement partir vers l'Espagne, hier, 5 000 immigrants illégaux. Plus précisément, ils sont rentrés dans l'enclave de Ceuta, qui est du côté marocain. C'est un petit territoire espagnol sur la côte marocaine, mais c'est tout petit. Ils n'ont pas les installations pour recevoir 5 000 immigrants illégaux.
Ouais.
Et donc l'Espagne veut les renvoyer chez eux. Sauf que pour les renvoyer chez eux, il faut qu'ils passent par le Maroc, et le Maroc dit non. Alors, tu vois le petit jeu diplomatique qui est en train de se jouer. En d'autres termes, le Maroc est en train de faire comme la Turquie. Il est en train de faire pression sur l'Espagne et sur l'Europe, avec l'immigration aussi, pour obtenir ce qu'il veut.
Là, la prochaine histoire là en Grande-Bretagne, Loïc, là, dis-moi que c'est vrai. Là. Dis-moi que tu as vérifié. C'est pas une légende urbaine.
Non, c'est pas une légende urbaine. Ouais. C'est la compagnie de chemin de fer qui s'excuse parce que le conducteur du train a dit « Bonjour, mesdames et messieurs ».
Non. Oui,
il faudrait qu'ils disent bonjour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont pas contents. Une personne dite non-binaire s'est sentie insultée par cette annonce, qui selon elle se serait pas adressée à elle. Et donc effectivement, la compagnie désormais va dire bonjour tout le monde.
Insultée.
Oui.
Parce qu'elle se sent pas concernée par la formulation de politesse. Bonjour, mesdames et messieurs, elle se sent insultée. Pas insultée,
non, non. C'est RFI, j'ai pris ça sur RFI. Puis quand il attend, là j'ai appris des choses. Que d'autres compagnies font la même chose dans le métro de Londres depuis 2017. C'est la même chose. On n'a plus le droit de dire mesdames et messieurs chez Air Canada depuis 2019.
Est-ce qu'on peut dire mesdames et messieurs?
Mais là, attention, il y a des aveugles, il y a des gens qui portent des dents de pied, je le sais pas.
Ça, ça, ça,
d'autres plaintes. Il y a des gens qui vont se plaindre. Mais moi, je je trouve que bonjour tout le monde, c'est très familier, c'est un peu impoli même. Excuse-moi, mais je trouve ça très bizarre. Et en fait, là-dedans, il y a une sorte de négation implicite de la masculinité puis de la féminité des passagers, tu sais. Puis t'as moins de 1% des gens qui se disent non-binaires. Là, c'est parti. Tu sais, aux Pays-Bas puis en Allemagne, nous apprend le même article de RFI, les mentions de genre féminin et masculin ont plus figuré sur les cartes d'identité.
C'est extraordinaire.
Mais écoute, là, t'as moins de 1% de la population comme ça. Puis pour faire plaisir à moins de 1% de la population, tu vas emmerder 99% de la population.
Mais on est quoi? On est des feuilles de J-Proc? Qu'est-ce qu'on est?
On n'est pas des mesdames et messieurs. T'es pas un monsieur. T'es un tout le monde. Bonjour tout le monde.
C'est extraordinaire et c'est sérieux. Puis là, les compagnies se plient à ça,
oui.
à ce bullying non binaire. Ben mesdames et messieurs, ça inclut tout le monde. Trouve un camp. On t'impose même pas lequel. Fais juste choisir.
C'est vraiment la dictature de petites minorités. Puis ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il y a des administrateurs de ces compagnies-là qui ont peur pour leurs fesses. Puis ils disent, ben oui, on va faire ça. Hey,
dis-moi donc, explique-moi donc.
99% de la population.
Ben ouais. Explique-moi avant qu'on se quitte, là, c'est quoi non-binaire?
Ben, je sais pas très bien, je t'avoue. C'est des gens qui se sentent ni hommes, ni femmes.
Mais c'est ça, on utilise des termes.
Ils sont des hommes ou s'ils sont des femmes. Alors, ils veulent pas qu'on les appelle monsieur ou madame.
Je comprends le sens. Mais non-binaire. C'est quoi binaire? Ouais. C'est quoi? Il n'y a pas de bin, il n'y a pas de... C'est quoi non-binaire? Ça rime à quoi, là?
C'est qu'ils ne réfèrent pas binaire dans le sens au couple homme-femme. Ils voudraient qu'il y ait un troisième genre, ils voudraient qu'il y ait autre chose, je ne sais pas. Mais c'est moins de 1% de la population.
Mais qu'ils le fassent, personne ne les empêche de le faire. On les encourage
personne
même.
Les empêche.
Soyez heureux, trouvez votre bonheur, mais arrêtez de nous faire chier.
C'est 99% de la population!
Ah oui.
Et puis, Écoute, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça commence à faire, là, ce genre de niaiseries-là.
Ah oui, ça va faire, c'est des niaiseries, certains. Il y a des choses bien plus importantes, là, tu sais. Et d'ailleurs, on ne les expulse pas, on veut pas de discrimination, on veut pas les ignorer, on veut pas les tabasser, on veut rien de ça, on veut la paix. Mais arrêtez, par exemple, là, de nous imposer des points-virgules comme ça, c'est insensé.
C'est insensé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ils vont t'accuser d'être un mâle hétérosexuel.
Un homme blanc.
Ben oui, c'est ça.
Ben, qu'ils prennent un numéro, qu'ils se mettent en ligne.
Moi aussi, d'ailleurs.
On se reparle demain, Loïc.
Salut.
Salut.